CO2 Mon Amour avec le WWF. Rejoignez la première organisation indépendante de protection de l'environnement au monde. Plus d'infos sur les dons, legs et assurance vie sur www.fr.
I was asked in 1980s.
Dans les années 80, on m'a demandé de mener à bien une étude sur les femmes et l'agriculture au sein de l'Université des Nations Unies.
CO2, mon amour.
Et j'étais très surprise lorsque j'ai vu le résultat. Nombre des femmes étaient celles qui étaient sur les champs, parce que, vous voyez, lorsqu'on voit l'imagerie, en fait, d'Épinal, de cet agriculteur moderne derrière son tracteur et avec son chapeau, on ne voit pas les femmes qui sont derrière. Et souvent, dans les fermes, de toutes ces fermes, les femmes sont celles qui s'occupent de toutes les graines qui les sauvent.
Denis Chesson.
Et on se rend compte que si les femmes n'avaient pas pris en charge les graines, pris en charge de nombreuses activités dans les fermes, n'en serions pas aujourd'hui où nous en sommes.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec aujourd'hui Stéphane Beaujat et Alice Berger à la technique, et assistés de Camille Blanès et d'Élise Amchin, c'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission. Alors, en mai, fais ce qu'il te plaît, et en juin, fume-en un. Non, c'est, effectivement, je suis d'accord, c'est pas possible.
On c'est peut très
pas,
bien, Denis, ça démarre bien.
Voilà. Non, on peut pas célébrer donc le mois de juin comme ça, pas du tout. Mais en tout cas, la petite entreprise de juin ne connaît pas la pluie. Elle a perdu d'ailleurs le chemin des nuages. Et la lumière ressemble déjà à celle de juillet. Un peu moins orangée, elle blanchit comme une chape estivale qui colle les gens au sol. Les moutons de la transhumance ont pris la route de nuit sur les pans du Mont Ventoux, tandis que leurs collègues de la Croix ont préféré les camions aérés. Sorane voit bien les routes qui poudroie, mais ce n'est pas son frère, non, c'est le vent sec qui soulève la poussière. De la terre en poudre qui aimerait de l'eau pour recoller au chemin, vers les chemins de Betty Saladin, les cigales répètent à l'arrache leur concert de cymbales pour la fête de la musique. Voilà, actuellement, c'est vrai, c'est sec, soit c'est des orages, en tout cas c'est très très sec partout. Sinon, sur le front animalier, que se passe-t-il dans notre beau pays? Eh bien écoutez, un vent nouveau pousserait-il les voiles gonflées de nos certitudes? Car Vlatipak, le Conseil d'État, annule le classement de certaines espèces nuisibles et donc vient de casser une flopée d'arrêtés préfectoraux abusifs qui doivent dater à peu près de 2 siècles et classant nos frères animaux en 2 catégories, les nuisibles et les utiles. Hein, si on faisait pareil avec les humains, vous imaginez le résultat? Bon, notion donc assez moyenâgeuse, battue en brèche par toutes les avancées scientifiques en matière d'équilibre de la faune et de biodiversité, et même de simple bon sens, hein, que l'on croyait rangé aux oubliettes de nos superstitions. Ainsi, les fouines qui nous écoutent, les belettes qui nous écoutent, les renards, les corneilles, les étourneaux et même les pies donc reprennent dans certaines régions, attention, une place normale dans la marche du vivant. Alors rassurez-vous, on pourra toujours en tuer, cela concerne juste une quinzaine de départements, donc une victoire partielle, et les étourneaux se lâcheront toujours de joie sur le pare-brise de vos voitures, mais ça, même un arrêté préfectoral, ça marchera pas. Ils vont retrouver surtout leur rôle naturel dans la pyramide de la vie, et rappelons que certaines espèces sont quand même de précieux auxiliaires de l'agriculture. On salue le travail de France Nature Environnement et de Humanité et Biodiversité qui ont déposé un recours commun. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à décrocher les blanches peaux d'hermine à la queue noire des robes et manteaux de nos cours de justice. C'est quand même une broutille, ça peut être simple.
Ça peut être simple, voilà. On en parlera pour ce Bayrou.
Et même la belle Europe s'y met en interdisant le bisphénol A, ce perturbateur endocrinien reconnu qui allait jusqu'à se planquer dans les tickets de supermarché. Comme quoi, le nuisible et l'utile, c'est pas toujours là où on croit. Cher Frédéric Dan, et bonjour.
Bonjour Denis Chesson.
Ben oui, donc avec nous notre chroniqueur, décrypteur de l'actualité, entre autres choses. Et alors là, quand même une nouvelle tout à fait intéressante et assez positive. On se calme aussi. Mais enfin, les émissions énergétiques de gaz carbonique sont stables depuis 3 ans. C'est ce qu'indique Bayon Petrol dans son BP, dans son dernier rapport annuel sur l'énergie, qui a été publié donc tout à fait récemment. Et donc on serait stabilisé autour de 33 milliards à peu près de tonnes d'émissions de CO2.
Oui, c'est à croire qu'on ne respire plus, mon cher Denis. Les émissions n'ont cru que de 0,1% parce que notre consommation énergétique n'a cru que de 1%. Hein, c'est la croissance la plus basse mesurée depuis 10 ans. Hein, pendant 10 ans, on était à 1,8% par an. Donc voilà, la croissance de la consommation était divisée par 2. Pourquoi ? Parce que la croissance des pays émergents diminue, en particulier celle de la Chine, dont la consommation énergétique ne croît plus que de 1,3%. C'était à 6% depuis 10 ans. En Inde, on est encore à 5%. Donc c'est la Chine, c'est les pays émergents qui tirent la consommation vers le bas. Pourquoi ? Parce que la Chine est en train de passer, comme les autres pays émergents, comme nous, à une économie de service, parce que son efficacité énergétique augmente, et puis aussi parce qu'elle produit, parce qu'elle vend moins
de fer. Elle s'est calmée sur le charbon aussi. Quoi, donc.
Elle s'est calmée sur le charbon, j'y viens. Et aussi, elle vend moins de fer, d'acier et de béton. Elle en fabrique moins. Hein. Ce sont trois industries qui consomment beaucoup d'énergie et émettent beaucoup de CO2. Et sur le charbon, c'est extrêmement intéressant. Les rodomontades trumpistes ne servent à rien parce que même aux États-Unis, on voit que la consommation chute, moins 9% l'an dernier, la production chute. En fait, ça chute partout même. Et c'est un événement, mon cher Denis, et je vous l'apprends aujourd'hui. Le Royaume-Uni a achevé sa révolution industrielle.
Qui avait commencé en 1750.
Qui a commencé en 1750. Le Royaume-Uni vient de fermer ses trois dernières mines. Oui. Et le Royaume-Uni n'a quasiment plus de charbon dans sa production énergétique. Voilà, c'est fini. Le cycle est terminé. Avant, c'était le charbon qui tirait l'augmentation de la consommation vers l'eau. C'est fini. Donc, on est en train d'enterrer le charbon, tout simplement. Et notamment parce que la Chine est en train de s'en détourner, en particulier pour des raisons sanitaires liées à la pollution des grandes villes chinoises.
Bon, ça prendra évidemment quand même le temps d'une petite génération aussi, mais en tout cas, les indicateurs sont quand même tout à fait intéressants.
C'est bon, c'est...
Ouais,
oui.
Non, mais il n'y a pas si longtemps, on était encore à 40 milliards, si vous voulez, donc de tonnes. Là, on est à 33 milliards. Ce sont des chiffres de façon vertigineux pour nous. Alors, une autre information intéressante, là, ça concerne donc les assureurs. Il y a eu un rapport de la Lloyd's qui dit qu'en fait, face au réchauffement climatique, il serait bon de s'intéresser à ce qu'on va appeler les infrastructures naturelles.
Voilà, et notamment, ils sont basés sur l'analyse de beaucoup de cyclones et autres typhons, et en particulier l'ouragan Sandy qui, souvenez-vous, avait noyé la région de New York, avait noyé le New Jersey, enfin toute la partie nord-est des États-Unis. Il y a eu 50 milliards de dégâts assurés par les assureurs, 52 morts. Eh bien, ils se sont rendus compte que les assureurs, que partout où il y avait des marais salants, partout où il y avait des préhumides, hein, ce qu'ils appellent les marchands, comme dans le Marcantin, hein, comme en Baie-de-Somme, enfin partout il y a de la Baie-de-Somme, si vous voulez, eh bien en gros, on économise entre 10 et 50% de dégâts et d'indemnisation aux assurances. Je m'explique, en tout, ça représenterait 625 millions de dollars rien que pour Sandy. Alors c'est 1%, hein, un petit pourcent de ce que ça a coûté, Sandy. Mais dans les régions, dans les zones, dans les comtés, comme on dit là-bas, où il y a encore des marais, eh bien l'économie est de 10 à 50%. Par exemple, dans le New Jersey a économisé 430 millions de dollars. 430 millions. Donc, le New Jersey, le coût de Sandy aurait cru de pas loin de 500 millions de dollars s'il n'y avait pas eu autant de, notamment de marais salants, de paludiers, de sauniers. Pourquoi ? Parce que ces zones écrètent les crues, diminuent l'énergie des vagues et font que quand on est à 500 mètres derrière, globalement, le niveau de l'eau a été baissé de 1 à 2 mètres. Et donc, conseil donné par la Lloyd's, investissez massivement sur ces infrastructures via la compensation écologique, via des produits assurantiels qu'on appelle par exemple les 4 bonds ou ce qu'on appelle aussi, vous savez, les fonds verts. Hein, Ségolène Royal les a inaugurés en France. C'est-à-dire, vous, assureurs, investissez là-dedans. De façon à diminuer vos indemnisations futures, moyennant quoi les gens, les communes qui acceptent de ne pas toucher à ces zones, eh bien on baisse leur police d'assurance et on baisse la franchise.
Quand on dit effectivement que c'est une mission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, c'est cela, c'est-à-dire que ce que l'on sait, nous, depuis des années, que l'on prêche un peu dans le désert, on fait avec la nature, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, entretenez vos mangroves, entretenez vos zones humides, ce sera de toute façon beaucoup moins cher qu'une digue qui, de toute façon, pètera au bout de 30 ans ou 40 ans.
Enfin, tous les 30 ans, il faut changer une digue, alors qu'une mangrove, elle est là pour 100 ans, à peu près.
Voilà. Alors ça, vous voyez, là, on est dans une espèce de transition qui doit vous réjouir, Monique Robin. Oh là là, je vais y arriver. Dominique au téléphone. Marie-Monique Robin, pardonnez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Donc, ce film que vous avez donc réalisé, vous avez fait plus de 200 films et documentaires, reportages sur les atteintes aux droits de l'homme et à l'environnement. On est un peu dans ce système-là, c'est-à-dire que là, ça se passe en France, ça se passe avec 2200 habitants, donc dans la plaine de Lorraine. Mais ces gens-là, ils ont aussi compris. D'Alsace, pardonnez-moi, pour être tout à fait précis, oui, parce que c'est pas la même chose. On est dans le Haut-Rhin. Vous avez tourné sur 4 saisons, donc, dans cette plaine d'Alsace, Hungesheim, avec des gens qui sont là aussi acteurs du changement.
Oui, tout à fait. Et c'est même totalement unique, en fait, cette commune de Ungersheim. Moi, juste avant, j'avais fait un film Sacré Croissance qui faisait le tour de toutes les initiatives réussies dans le domaine de la transition alimentaire, énergétique, les monnaies locales. C'était en 2014. Hein. D'ailleurs, j'étais allé à Toronto, ville de 6 millions d'habitants, qui est un exemple pour l'agriculture et l'alimentation durable. Je dis ça parce que c'était au moment de la plus grande inondation de toute l'histoire de Toronto. Et le maire m'a expliqué que si on voulait faire face à ces effets que vous venez de décrire, hein, des grandes inondations dues au dérèglement climatique, il fallait refaire une ceinture verte, ce à quoi il s'emploie actuellement à Toronto. C'est un exemple. Il cultive partout, voilà, à Toronto. En tout cas, c'est en présentant ce film en Alsace, après sa diffusion sur Arte en 2014, que le maire de Ungersheim était là, et il m'a un peu vexé parce qu'il m'a dit tout ce que vous racontez dans votre film, eh ben, nous le faisons déjà.
Voilà. Alors, et là, vous êtes dit, allez, on va le voir.
C'était un peu, voilà, il me tend un petit fascicule, c'était assez étonnant, hein, parce qu'il parlait de transition, de transition avec tous les piliers que j'avais décrits dans le film d'avant et dans le livre d'avant. Autonomie intellectuelle, autonomie alimentaire, autonomie énergétique, résilience, etc. Je suis allé voir, et puis, effectivement, là, c'est là que j'ai décidé de faire ce film pour le cinéma, parce que je voulais que les gens se rassemblent dans des salles et ensuite
discutent
avec leurs élus, parce que là, en l'occurrence, qui est très original, et c'est ce que Rob Hopkins, qui est le fondateur du mouvement des villes en transition, il est venu à Ungersheim et il l'a écrit sur son blog, si vous allez voir, il a dit c'est unique au monde, cette commune, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire qu'il y a plein d'initiatives, mais qui sont dans un domaine, mais pas dans l'autre, enfin, sur un même territoire. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est porté par une municipalité, c'est-à-dire qui encourage, qui facilite, qui met à disposition, qui propose. Enfin, et ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'on voit quelle dynamique vertueuse peut-être à l'œuvre, et que la transition, c'est pas du tout un sacrifice, un retour en arrière, non. C'est du bonheur, c'est de l'envie de faire des choses ensemble.
C'est croire au changement humain et se dire c'est possible. Il y a beaucoup d'humanisme d'ailleurs aussi chez Jean-Claude Manch, qui est donc le maire de cette commune de Ungersheim. Et puis aussi quelques mots, parce que Pascal Derme, vous allez intervenir, vous êtes aussi notre autre invité, avec un ouvrage qui s'appelle Sœur en écologie, aux éditions de la Mer Salée. C'est joli ça, édition de la Mer Salée. Sœur en écologie. Juste en une phrase ou deux, qu'est-ce que c'est l'idée ?
Alors l'idée, c'est de présenter toutes ces femmes qui sont à l'œuvre aussi, mais qui sont invisibles ou qui sont oubliées dans l'histoire, et qui se regroupent entre femmes parce qu'elles sont souvent en première ligne dans toutes les perturbations écologiques qui affectent leurs fonctions traditionnelles, laver, vêtir, soigner, nourrir. Elles sont en première ligne, donc elles se regroupent pour être plus puissantes, pour s'entraider entre sœurs. Et c'est de cela dont parle mon livre.
On va parler de sororité donc écologique, et donc aussi avec Marie-Monique Robin donc de Ungersheim, en tout cas des choses qui sont positives dans cette émission, avec aussi une chose de positive, oui, choisie par Muriel Pérez, ça s'appelle un disque.
CO2 Mon Amour sur France Inter. Yeah.
Bror Gunnar Johnson, et c'est un Suédois. Ouais, mais il a fait première langue, il a fait anglais, et il se débrouille pas mal du tout. C'était notre premier disque, donc, dans CO2 Mon Amour. Non, je le découvre là aussi, gentiment, donc avec tous les... Et je ne découvre pas ni Pascal Derme, qui est notre invité, ni Marie-Monique Robin, qui est notre invité, ni Frédéric Denré, qui va pouvoir aussi mettre son petit grain de sel. Pascal Derme, Sœur en écologie, donc édition de La Mer Salée. Donc un tableau de famille, on va dire, de femmes qui sont engagées dans la préservation du vivant et de l'écologie. Et vous avez voulu remettre les choses un petit peu à leur place. C'est-à-dire que au tout départ, la terre-mère, je veux dire, il y avait quand même ce mythe de ce qu'on appelait la grande déesse. Alors là, on était à quoi? À l'époque du néolithique, peut-être du paléolithique, hein, c'était à peu près ça. Et donc, il y avait une identification, la femme, la grande déesse, la nature.
Exactement, paléolithique. Il y a une identification du principe féminin de la fertilité, de la fécondité, avec... la femme, avec la terre, cette identification, elle va se traduire par des déesses comme Inanna, Ishtar, Déméter, Gaïa, Isis. Et au fur et à mesure, cette fascination pour la terre et pour la fertilité de la terre se double d'une répulsion, parce que la terre aussi, c'est des catastrophes, c'est des récoltes qui ne montent pas, c'est des températures et des aléas climatiques. Donc cette double fascination, répulsion, elle va suivre le principe féminin tout au long des siècles. Et quand la grande déesse disparaît au néolithique, parce qu'à ce moment-là, il s'agit vraiment de maîtriser la nature davantage que de la sublimer et de la sacraliser, le principe féminin disparaît au profit de ses fils. Et la grande déesse disparaît un petit peu dans les méandres de l'histoire, mais elle est restée comme une espèce d'ombre tutélaire, comme ça, qui pèse un petit peu sur les épaules et sur cette représentation du rapport des femmes à la nature et qui nous essentialise dans un rapport inné. C'est parce qu'on est femme qu'on s'intéresse à la nature. Or, moi, je pense que non. Ça n'est pas parce qu'on est femme qu'on s'intéresse ou qu'on s'engage ou qu'elle s'engage en faveur de la nature.
Bah, si on regarde un peu le deuxième siècle de Simone de Beauvoir, on n'est pas dedans.
Voilà, les féministes sont allées à l'encontre de cette image essentialiste. Oui. Effectivement, c'est parce qu'elles ont une histoire dans la nature qui est différente de celle des hommes qu'elles ont aujourd'hui une attitude peut-être différente que celle des hommes.
Mais en fait, la nature, elle devient en fait le seul espace où elles pouvaient étancher leur soif, donc à cette époque-là, ou
alors,
parce qu'en fait, c'est la condition, si vous voulez, de l'éducation n'était pas pour ces femmes-là.
Alors, le fait d'avoir été identifié à la grande déesse, puis à la matière par les Grecs.
Oui.
On va remonter un petit peu, mais
ouais.
On était identifié à la matière par opposition à la culture. Et dans la hiérarchie, la culture étant placée au sommet et la nature matière, donc le féminin et les femmes, plutôt dans la partie basse. Et en fait, ça a valu aux femmes une dévalorisation et une exclusion des lieux de pouvoir, des lieux d'instruction, des lieux d'éducation. Et nous sommes restés dans cette domus, dans cette maison sombre où nous pratiquions les cérémonies de vie et de mort. Donc nous étions impurs, nous n'avions pas le droit de vote dans la démocratie athénienne. Et cet exil de la pensée et de la cité, de la place publique, s'est poursuivi très 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 longtemps. Et les féministes racontent que c'est un combat qui leur a coûté beaucoup de sueur pour que les femmes puissent s'imposer dans cette place publique. Parce que les femmes étaient associées justement à la matière, à la nature, avec tous ces attributs dévalorisés d'empathie, d'obscurité, de mystère, d'émotion, bien sûr par opposition à une raison toute puissante. Et moi j'ai découvert qu'en effet, cette nature-là nous avait pesé, c'était un piège. La nature a été longtemps un piège pour les femmes.
On est passé, on le voit dans votre ouvrage, d'une nature, on va dire, qui a été subie à une nature qui devient émancipatrice.
Exactement. Alors moi, je vais
vous. Mais il y a quand même un petit tour du côté des sorcières, parce qu'on appelle les guérisseuses aussi au départ.
Alors je vais vous raconter les sorcières et les guérisseuses blanches, mais je vais vous faire une petite anecdote au début, parce que au début, il y a deux ans, j'ai fait une recherche femme, nature, écologie dans l'Encyclopédie Universalis, tout au début du livre. Le premier item que j'ai trouvé a été reproduction. Donc là, ça nous renvoie à cette grande déesse. On comprend maintenant, et maintenant j'ai compris, mais à l'époque, je me suis demandé, tiens, quand même. Voilà. Le deuxième item trouvé, Rousseau. Donc on connaît l'amour de Rousseau pour la nature, mais on connaît aussi ce qu'il pensait des femmes, qui renvoyait également, d'ailleurs, à leur fonction reproductive. Et le troisième item que j'ai trouvé fut mycose. Ah. Et là, j'ai refermé mon ordinateur consterné en me disant, mais où était Rachel Carson, qui a été à l'émergence de l'opinion publique américaine? Où est Vandana Shiva, figure internationale?
On rappelle dans les années 60, donc le printemps silencieux, parce qu'elle avait observé qu'il n'y avait plus d'oiseaux dans les champs, parce qu'ils avaient été tellement ravagés donc, par les pesticides.
Voilà, qui a fait cette enquête sur les effets du DDT sur la santé humaine. Où était Hildegard de Bingen, abbesse médiévale? Où était Vandana Shiva, figure internationale de l'écoféminisme? journalisme, où était Anita Conti, première femme océanographe. Enfin, ça n'était pas possible. Il y avait quand même dû avoir des femmes dans l'histoire qui avaient une expérience de la nature qui méritait d'être citée, qui méritait d'être partagée. Donc les sorcières, bien sûr, l'assimilation des femmes à la nature nous a coûté très cher. Elle a coûté entre 500 000 et 300 000. Les chiffres sont très très flous. Mais femmes noyées ou brûlées, d'ailleurs, brûlées et noyées, parce qu'elles étaient les simples guérisseuses du village. Jules Michelet, dans La Sorcière, qui est quasiment un des seuls livres de réhabilitation de ces femmes, écrit que, effectivement, les barons, les ducs, les princes allaient voir le docteur de Salerne. Mais dans les villages, la guérisseuse, la sorcière, était le seul médecin. Et pour les femmes, c'était le seul, souvent bien le seul. Et elles provoquaient un effroi parce qu'elles maniaient des plantes qui étaient à la fois susceptibles de guérir et de sauver, mais aussi de tuer, comme la belle ladone, qui peut guérir des convulsions, mais qui peut empoisonner. Donc là, on est sur cette ligne, fascination-répulsion à nouveau. Et c'est ce qui a provoqué l'effroi.
Et on vous taxait très vite de sorcière.
On vous taxait très vite. On nous taxait très vite de sorcières. Le contexte surtout a pesé, parce qu'à partir de ce moment-là, du bas Moyen-Âge, on a interdit à tous ceux qui n'avaient pas été étudiés dans les universités de pratiquer la médecine. Or, les femmes étaient exclues des lieux universités et d'éducation. Donc, par définition, elles n'avaient pas ces diplômes, mais elles continuaient dans les villages à guérir et à soigner parce qu'elles jugeaient que ça a été utile. Elles avaient une connaissance très, très minutieuse, pas seulement des végétaux, mais des minéraux et des hommes aussi.
Et en 18e et 19e siècle, vraiment, les femmes scientifiques naturalistes, là, vraiment, commence à émerger.
Il y a les grandes exploratrices qui partent en crinoline dans la nature. Elles se servent de la nature comme tremplin d'émancipation pour voler vers des horizons échappés à leur structure patriarcale. Et puis bien sûr, on voit arriver les scientifiques. Et ces scientifiques-là, elles ont du mal au début à s'imposer, mais finalement, elles redécouvrent ce principe d'interdépendance entre le vivant.
Et évidemment, si on arrive à l'époque contemporaine, on va retrouver une femme qui est dans votre ouvrage, chez Vandana Shiva, qui va nous raconter donc son enfance avec son père.
Le lien avec la terre, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Vous savez, mon père était un garde forestier. Et c'est vrai que je suis née en pleine forêt. Et ma mère, qui est devenue une réfugiée et qui, au départ, était une fonctionnaire, a finalement décidé d'être une agricultrice lorsqu'elle a été déplacée, elle a été installée. Et c'est vrai que nous étions entre la forêt où mon père travaillait et la ferme où ma mère, elle aussi, cultivait. Et c'est vrai que la nature a été dès le départ mon terrain de jeu et là où j'ai tout appris. Ma mère avait donc cette ferme où nous produisions notre propre nourriture et c'est vrai que ma famille était très consciente en fait de manger sain et manger toujours selon on avait besoin. Il n'y avait pas de gâchis. C'est vrai que nous avions par exemple des chèvres pour le lait et nous avions des légumes et nous avons grandi avec cela autour de nous et c'est ce qui nous a donné cette force. Et ma mère avait son propre jardin même là où nous habitions en forêt et nos parents nous encourageaient. Ils disaient voilà pourquoi vous n'avez pas une petite parcelle, un petit lopin de terre vous aussi, vous pouvez cultiver vos propres légumes. Et puis donc, déjà très jeune, on avait nos petits lopins de terre et on cultivait et cuisinait notre propre alimentation.
Voilà, donc la sensibilité à l'environnement, donc j'avais reçu en février 2015, donc Vandana Shiva, donc qui nous raconte ça. Donc elle est devenue une figure de l'écoféminisme contemporain, en précisant d'ailleurs que toutes les femmes ne sont pas écoféministes, loin de là. Mais en tout cas, elle est tout à fait révélatrice. Et alors après, vous convoquez dans votre livre, alors aussi bien donc Rachel Carson dont on a parlé, plus récemment Jeanine Benyus, la théoricienne du biomimétisme. Il y a aussi Rosa Luxembourg. Ça, c'est très intéressant, ça, Rosa Luxembourg.
Alors, Rosa Luxembourg, c'est très intéressant parce que cette femme-là est connue pour son engagement marxiste, pacifiste, la République de Weimar, la Constitution, la première Constitution allemande. Mais alors, son empathie pour la nature a été complètement passée sous silence. Or, pendant les 9 ans d'emprisonnement qu'elle a subi, parce qu'elle a été emprisonnée 9 ans, parce qu'elle avait une éloquence qui heurtait beaucoup les autorités, elle a créé le premier jardin de prison dans une forteresse polonaise à Wronke, qu'elle décrit dans ses lettres de prison qui sont admirables, qu'elle écrit à Sonia Lipnecht, qui est la femme de Lipnecht, qui était aussi un emprisonné pendant le même temps qu'elle. Et elle décrit le fait d'avoir planté des myosotis dans sa prison, le fait de regarder des nuages roses par-dessus ses fenêtres. Elle parle aux oiseaux, aux mésanges. Elle a bien sûr une temporalité grâce à cette nature qui lui manque cruellement, donc ça l'inscrit dans une temporalité grâce à la nature, mais aussi une empathie, une joie Et son seul, finalement, son seul réconfort pendant 9 ans de prison, c'est la nature. Cet amour et cette empathie de Rosa Luxembourg a été totalement passée sous silence, n'a pas été du tout étudiée pour ne pas minorer, pour ne pas affaiblir et décrédibiliser son combat.
Petite finalement. Réécriture, voilà, on a passé un peu de... On a corrigé un peu cela. Ce qui n'était pas complètement le cas pour George Sand, en revanche, qui affirmait, elle, haut et fort, quand même, qu'elle aimait la nature. Quoi.
Donc, alors, George Sand, on est dans le... effectivement, on est dans le romantisme. On peut dire qu'elle a été une des figures de l'écologie. Et qu'elle a contribué à classer la forêt de Fontainebleau, pas toute seule bien sûr, avec des hommes, mais son empathie, elle aussi parlait aux oiseaux, parce que son grand-père était maître oiseleur, et elle parlait aux oiseaux elle aussi, elle décrit sa mère qui se promenait dans sa propriété de Rohan en parlant avec des oiseaux, en ayant des oiseaux à côté d'elle. Ce qui est magnifique avec George Sand, en deux mots, c'est sa clairvoyance, parce que dès la fin du 19e siècle, puisque c'est l'époque à laquelle elle vit, elle a conscience du sens de l'interdépendance qu'elle décrit très bien, et surtout de la responsabilité générationnelle de leur génération à l'égard des générations futures. Ce concept qui nous est plus familier depuis le développement durable que Gro Harlem Brundtland, une autre femme d'ailleurs médecin, a théorisé.
En 87,
Our Common Future. Mais ce concept d'interdépendance et de responsabilité à l'égard des générations futures, George Sand est une des premières à le mentionner. Elle parle de ces arbres qui ne nous appartiennent pas, mais dont la beauté doit aussi servir nos enfants. C'est un principe qui est aujourd'hui inscrit dans la Déclaration des droits et devoirs de l'humanité, qui est portée par Corinne Lepage. C'est un principe qui est aussi porté par Valérie Cabanès dans Écocide, qui fait de la nature un sujet de droit à l'égard des générations futures. Mais à l'époque de George Sand, c'est totalement pionnier.
Alors on voit bien, c'est une visionnaire. Tout l'apport, parce que ce soit le côté économique, le côté droit, le côté social, enfin évidemment tout est lié, puisqu'on répète très souvent avec Frédéric Danhé que l'environnement c'est une des premières des sciences sociales et qui doit relier tout le monde. Mais ce qui a été énormément porté par les femmes et qu'elle l'est encore, et qu'il l'est encore, c'est le côté santé-environnement. On est en pleine crise de perturbateurs endocriniens où on est en train de freiner merveilleusement avant que les choses puissent aboutir, on l'espère positivement. Sur le glyphosate, donc c'est pareil. Je tiens à préciser quand même qu'il y a eu 1 million aujourd'hui de personnes. Hier, c'était ça, hier, le chiffre de 1 million qu'il est. Donc en Europe, sur 28 pays. Qui ont signé pour dire attendez, stop là au glyphosate, voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, il faut du rapport de force, mais santé, environnement, c'est beaucoup porté par les femmes.
Alors c'est traditionnellement lié à leur histoire, on le disait tout à l'heure, oui. C'est qu'elles sont responsables de cette santé environnementale, mais c'est vrai que cette santé environnementale, ça les fait sortir de leur foyer, et c'est là où on peut parler d'écologie émancipatrice, parce qu'elles sortent de leur foyer, elles militent, elles deviennent militantes. Je cite le cas de Lois Gibbs, 1978 aux États-Unis, une mère de famille qui découvre que l'école de son fils est située à côté d'un dépôt de déchets chimiques. 1978, elle devient militante, elle mène une campagne extrêmement médiatisée, elle obtient un acte de loi pour interdire que de tels dépôts chimiques soient à côté des habitations et des écoles. Elle va plus loin, elle crée un Centre for Environmental Health and Justice, un centre d'action civique pour transmettre son partage et pour aider en fait les habitants, et 80% des stagiaires sont des habitantes, à mener pétition, à se battre, à mener des actes de loi dans le cas de pollution chimique justement. Elle transmet son expérience et elle contribue souvent d'ailleurs à apprendre à lire et à écrire à ces populations défavorisées. Et donc voilà, la santé environnementale est restée un sujet majeur pour les femmes.
Frédéric, lorsque l'on a cette chance de sillonner quand même pas mal la France pour des conférences, des débats, etc., qu'est-ce que l'on constate justement dans les salles ?
C'est des femmes. Les chargées de mission dans les collectivités locales, les directrices au développement durable sont donc des directrices. Voilà. Les personnes qui s'occupent d'environnement dans les collectivités, dans les régions et les territoires, sont quasiment toutes des femmes. Alors Patrick Vivray, le philosophe, explique que parce que les femmes et la nature ayant été reclus par les hommes, se sont retrouvées ensemble finalement à s'occuper, les femmes à s'occuper d'un sujet qui n'intéressait pas les hommes, la nature. Vous partagez ce point de vue ou il y a une autre explication ? Ne me dites pas que c'est les femmes s'occupent de nature parce que elles sont dans la nature, parce qu'elles ont des cycles, parce qu'elles font des enfants. Non,
Je vais surtout pas vous dire que les femmes s'occupent de nature parce qu'elles sont des femmes. Tout mon propos est de dire l'inverse.
J'ai bien compris.
Et justement, donc merci.
C'est bien de le redire.
Et de bien de le redire.
Donc pourquoi les femmes s'occupent d'environnement dans les collectivités, dans les entreprises, par exemple?
Et pourquoi sont-elles aussi souvent ministres de l'environnement?
Oui.
Alors historiquement, c'était vrai que c'est un sujet qui a peut-être été délaissé par les hommes. Il n'y a pas une réponse à cette question. Je pense qu'effectivement, c'est des sujets qui ont été moins convoités. Je peux vous répondre par une autre question. Pourquoi les femmes sont si nombreuses dans la primatologie? Pourquoi Jean Goodall, Birute Galgikas, Diane Fossey, qui a payé de sa vie, pourquoi était-elle si nombreuse?
Et
là-dessus, ça a été étudié par contre, et les réponses étaient triples. D'une part, c'est que la primatologie exigeait des années d'exil dans des forêts sombres, très très loin des recherches de subventions et des spots médiatiques. Ça a été étudié notamment par Dana Haraway, qui est une écoféministe, une chercheuse en sciences sociales américaines. Donc, des sujets qui étaient loin des subventions et loin des médias. Des femmes qui étaient jeunes la plupart du temps et qui avaient toute une expérience et toute une carrière à faire, mais en tout cas certainement pas des jeunes petits des êtres doux dont les égos s'accommoderaient mieux avec les égos des grands singes.
Alors ça, une autre femme engagée qui est aussi dans votre ouvrage, chez Wangari Maathai, nous partons au Kenya.
Quand les gens ne prennent pas soin de leur environnement, et plus particulièrement des forêts qui fournissent les réserves en eau et qui jouent un grand rôle dans l'hydrologie, alors ces gens deviennent très exposés aux problèmes de sécheresse. Depuis pas mal de temps, nous avons mis l'accent sur le fait que dans cette région du globe, il est très important de faire de la conservation et de la protection des forêts primaires une priorité. Les dégâts que nous avons faits par le passé en détruisant les forêts primaires ou encore en cultivant dans les zones semi-arides, zones qui justement ne devraient pas être cultivées, tout cela nous a rendus extrêmement vulnérables et maintenant nous avons cette sécheresse prolongée dans la sous-région.
Voilà donc Wangari Maathai donc, qui a aidé ses sœurs, ses sisters, donc avec cette fameuse ceinture verte pour replanter.
Green Belt Movement, 51 millions d'arbres planté au Kenya par les Sisters, un prix Nobel de la paix et une vision à l'origine. On va planter des arbres et on va faire revenir l'eau, protéger, créer une micro-économie, apporter de la richesse et pacifier les communautés. Donc la paix et le prix Nobel de la paix en 2004.
Alors vous avez étudié vous aussi Marie-Monique Robin, donc ce thème-là avec Femmes et Environnement. Je le disais, plus de 200 documentaires donc, et films. Vous avez travaillé dessus.
Oui, j'ai fait un film qui s'appelle Femmes pour la planète.
Pour la planète.
Qui a fait le tour du monde de toutes ces initiatives de transition où j'avais constaté que, en fait, les chevilles ouvrières des initiatives abouties dans le domaine de la transition alimentaire, énergétique, etc., c'est les femmes. Et dans mon film, j'avais fait intervenir Émilie Hache, qui est une écoféministe en France, l'une des principales, et qui, je trouve, avait commenté toutes ces histoires que j'avais filmées, et je trouvais ça intéressant le regard qu'elle avait. Et elle disait une chose très simple, c'est que les femmes, par la place qui leur est assignée, et notamment de prendre soin des personnes les plus vulnérables dans la maison, quand même, c'est ça qui est la place qu'elles ont, et bien fait aussi qu'elles sont confrontées à gérer les problèmes qui sont liés aux grandes pollutions, par exemple, ou aux problèmes d'alimentation, etc., et qui fait que, ce sont les premières écologistes là où elles vivent, parce qu'elles ramènent l'écologie dans la maison, comme elle dit, au milieu des chaussettes et autre chose, voilà. Et je pense que ça tient aussi à la place qui a été assignée aux femmes. Je pense que son explication est assez, est une manière de comprendre pourquoi. Et moi, je l'ai constaté, aussi bien au Népal, partout où je suis allée, au Bhoutan, au Brésil, en Argentine, dans toutes ces initiatives que j'avais rapportées. Effectivement, ces femmes vont s'engager, souvent dans l'ombre. Dans l'ombre, je veux dire, elles sont pas là pour faire, Et d'ailleurs, souvent dans ces initiatives, au départ, il y a un homme, Émilie le décryptait à travers toutes ces histoires, mais si l'initiative aboutit, et devient quelque chose de vraiment d'abouti, c'est parce que derrière, il y a des femmes qui font que l'initiative, elle vit, quoi.
Pascal Derme.
Alors, tout à fait, par exemple, au lac Tchad, les femmes du lac Tchad, les Peuls, comme Hindou Oumarou Ibrahim, 31 ans, qui dirige cette association des femmes du lac Tchad. Alors là, les hommes sont partis, ils sont partis dans les villes et 80% des eaux sont asséchées et elles sont face à la désertification et à Boko Haram et elles mènent des médiations parce qu'elles connaissent la terre, elles connaissent les couloirs de transhumance, elles vont faire une cartographie du lac Tchad, c'est les femmes qui vont faire ça. Et effectivement, ce que j'ai constaté, c'est que du Tchad en Inde aux États-Unis, moi aussi j'ai été partout pour écouter ces femmes, elles se créent en réseau, elles créent des réseaux des femmes pour le climat, elles se créent en réseau Women in Europe for Common Future sur la santé chimique, elle se crée des réseaux, donc c'est des réseaux de sœurs pour être plus fortes et s'entraider sur ces questions-là.
Oui, et avec une porte d'entrée qui est l'alimentation, très important, l'alimentation durable. Enfin,
et ça, on va le développer, on va le développer en Alsace, oui, avec vous.
Cerisier, au printemps, il demeure le gardien des fleurs, le gardien des fleurs, le gardien des fleurs, sous la brume légère, les pas des promeneurs, les restes de l'hiver, le retour des fleurs. Passagère, on sait d'ici d'ailleurs qu'il est feuilleux les pleurs, le gardien des fleurs, le gardien des fleurs, le gardien des fleurs.
Une femme interprétée Freda, le gardien des fleurs sur France Inter dans C'est haut de mon amour.
Mademoiselle Dumaise est probablement une des meilleures candidates du centre de formation. Une fille qui bosse, hein, qui a de l'énergie.
Vous êtes mariée ?
Pas d'homme, pas d'enfant.
Si vous vous installez sans homme, vous ne tiendrez pas longtemps. Les gars, les cons, ils sont pas nombreux, ils comprennent après les femmes qui se lèvent à 5 heures pour traire les chèvres.
Contrairement à ce que vous pensez, monsieur, je suis pas une petite gamine de la ville qui vient faire un petit tour dans l'agriculture sur un coup de tête. Je cherche une ferme pour m'y installer et vivre le plus longtemps possible, comme je l'entends, avec ou sans mec.
CO2, mon amour.
Si je m'installe ici, vous m'aiderez?
Vous ne serez pas très utile. À vous qui avez un brevet d'études professionnelles agricoles.
Avec Denis Chessot, sur France Inter.
Pascal Derme, Marie-Monique Robin avec nous, Frédéric Danhé. J'ai envie de commencer, avant de revenir sur qu'est-ce qu'on attend, donc sur Ungersheim et donc cette transition qui est quand même très très belle et très stimulante. Marie-Monique Robin, vous êtes la marraine du tribunal du tribunal de Monsanto qui a eu lieu donc il y a 6 mois à peu près du côté de La Haye, franchement ouais. À La Haye. Ouais. Et vous allez sortir donc le Roundup face à ses juges aux éditions de la Découverte, ce sera au mois d'octobre, avec aussi donc un film que l'on va pouvoir voir sur le glyphosate. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, parce que ça a été un combat quand même, et c'est toujours un combat extrêmement rude.
Ah oui, et puis c'est pas gagné. Pour dire très simplement, c'est le produit chimique le plus toxique jamais inventé par l'homme. Pour plusieurs raisons qui sont assez méconnues d'ailleurs, on sait que c'est cancérigène, le CIRC, le Centre d'investigation sur la recherche.
C'est des gens qui vous écoutent, qui vont vous dire vous êtes excessive, etc. Il y a eu le DDT.
Mais il y a plein de propriétés, je ne vais pas rentrer dans les détails là parce que c'était pas. Voilà, mais plein de propriétés, chélateurs de métaux, antibiotiques. Monsanto a obtenu un brevet en 2010 pour ça, qui sont absolument inconnus. Et moi j'ai fait le tour du monde pour voir l'impact sanitaire. et environnementale. Alors je suis allée en Argentine, je suis allée au Sri Lanka, aux États-Unis, en Allemagne, j'ai vraiment fait, et toutes ces victimes sont venues aussi témoigner au tribunal de La Haye, donc à la fois elles témoignent devant le tribunal et on les voit chez elles, et on voit comment finalement, c'était d'ailleurs la conclusion des juges, hein, c'est que si le crime d'écocide, qui est le crime contre les écosystèmes, était reconnu, ce que nous espérons tous un jour, hein, qui soit inclus dans le comme cinquième crime aux côtés des crimes d'agression, de génocide, etc., par le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale de La Haye, eh bien, si ce crime était reconnu, le glyphosate pourrait être reconnu comme un outil de ce crime parce qu'il détruit et affecte les sols, les plantes, les animaux et les hommes. Et vous verrez dans mon film comment des grands éleveurs américains arrêtent de donner des OGM parce qu'il y a des résidus de Roundup dessus à leurs animaux parce qu'ils ont constaté plein de maladies. Vous verrez comment dans les champs américains, dans l'Iowa, 40 nouvelles maladies sont apparues parce qu'à force de balancer du glyphosate sur les OGM, eh bien, les sols, je ne rentre pas dans les détails, ont développé des super bactéries, des super mauvaises herbes, des super tout ce que vous voulez, et résultat, 40 nouvelles maladies, et tout ça, vous verrez ça dans le film et dans le livre. Donc, c'est vraiment très sérieux, c'est très étonnant, enfin non, c'est pas étonnant, parce que je connais la capacité de lobbying de Monsanto, de voir qu'aujourd'hui encore, l'Union européenne est en train de tergiverser, pour des intérêts qui sont évidemment économiques. Parce que si on interdit
sur les perturbateurs endocriniens aussi.
D'ailleurs. Oui, bien sûr. Ben ça fait déjà depuis notre poison quotidien que bien sûr que je. Mais c'est absolument sidérant. Et vous verrez dans le film comment des scientifiques accusent la communauté européenne, enfin en tout cas l'EFSA, l'autorité européenne, de fraude scientifique. C'est Chris Portier, quelqu'un de très renommé au niveau international, qui vient de faire une lettre d'ailleurs à la Commission européenne, qui accuse l'EFSA de fraude scientifique. Voilà.
Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de repartir à Ungersheim. Donc nous sommes dans la plaine d'Alsace, vous avez un horizon de clocher, vous avez quelques terrils, vous avez les Vosges qui sont au loin, et donc on va voir comment se passe cette transition écologique.
Ungersheim, c'est une, à la vision idéale, c'est une communauté qui se suffit à elle-même. C'est une petite île qui trouve les ressources nécessaires pour, en matière alimentaire, énergétique, mais aussi en matière de partage, de lien social, mais qui ne doit pas être fermée sur elle-même. Donc c'est aussi important. Alors il faut tout le temps garder dans cette enceinte, dans cette communauté, les fenêtres ouvertes vers l'extérieur, ouvertes vers l'extérieur pour voir ce qui se passe, mais aussi pour accueillir et partager des idées nouvelles.
La transition, c'est tout le contraire d'un repli sur soi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la transition tout seul. On peut l'amorcer, hein. On peut avoir un mode de vie parfait, entre guillemets, alternatif, en buvant de l'eau de source, en cultivant ses légumes, en ayant une chèvre, voilà. Mais ça fait pas la transition. La transition, c'est la société qui doit entrer en transition. C'est éminemment communautaire. Il faut vivre ensemble pour réussir la transition.
Je suis un enfant de la potasse, à vrai dire, quoi. Tombé dans la marmite, dans la saumure de la potasse. Né dans une cité minière, dans une maison de mine, d'un père qui était mineur auparavant, et dans une famille où mes frères ont travaillé à la mine. Voilà, donc ma voie était toute tracée. À l'âge de 17 ans, je suis descendu au fond de la mine, jusqu'à l'âge de 52 ans, donc ça fait 35 années de mine.
Voilà, donc un extrait de Qu'est-ce qu'on attend, donc, qui est paru donc en novembre 2016. Et puis, qui continue, parce que Marie-Monique Romain, vous allez évidemment dans les salles parler avec les gens, donc, sur cette commune de Ungersheim. On a entendu Jean-Claude Mensch, donc, qui est donc ce maire. Et d'ailleurs, il est rattrapé par son nom, parce que ça veut dire humain,
oui,
en allemand. Ce que j'ai découvert aussi dans.
Tout à fait, magnifique.
Dans ceci. Donc, c'est un ancien mineur, hein, qui a été converti, donc, à l'écologie.
Un combat contre la, d'ailleurs, parce qu'en fait, il est cégétiste, il est mineur, donc, c'est une époque où, il n'y a pas vraiment de coïncidence avec l'écologie, ou même tout le contraire, on va dire. Et lui est sensibilisé, sa fibre écologique, elle naît avec le combat contre la centrale nucléaire de Fessenheim. Je dis ça parce que c'est aussi une autre actualité. Et voilà. Et puis aussi contre une autre usine, Marco Essheim, qui allait se. Voilà, c'est comme ça que ça commence, quoi. Et maintenant, alors il n'est pas encarté. À un moment, il a été proche de Wächter, au moment où il a créé le Parti des Verts, il était son suppléant, puis après, il n'était plus encarté. Mais c'est vraiment l'écologie.
Et il mise sur les valeurs humaines.
Tout à fait. Alors, il a une capacité absolument incroyable. Dans Sacré Croissant, quand j'avais fait mon tour du monde, j'avais développé ce concept qu'on m'avait soufflé, parce que moi, je ne fais que transmettre, c'est le concept de héros local. Il y a aussi des héroïnes locales, hein, mais héros local, parce que là, on prend le mot générique, on va dire. Les héros locaux, et Mensch, le maire de Ungersheim, en est un, évidemment. C'est quelqu'un qui a une vision très claire des enjeux, qui sait la partager. Hein. Alors lui, la vision, il vous parlera devant une classe d'élèves, comme on voit dans le film, il va vous parler du réchauffement climatique, de la fin de l'épuisement des ressources, etc. Puis après, il n'en reste pas là. Il dit, voilà, c'est ça le constat, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein. Et ici et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il a une vision des enjeux, il sait la partager, il sait rassembler. Alors vous avez raison, parce que dans le film, on voit comment l'un de ses
tout
premiers
temps,
adjoints, c'est un maïsiculteur intensif, voilà, qui fait donc du maïs chimique, comme moi je dis, hein, voilà. Et dans la plaine d'Alsace, vous savez, c'est une région de culture intensive blé et maïs. Et eh bien, il va le chercher parce qu'il sait que cet homme a des valeurs humaines. Et il sait que cet homme, il se pose des questions. Et on le voit dans le film, hein, il est très inquiet, cet agriculteur, parce qu'il se dit, mon maïs là, qui ne sert même pas à nourrir les hommes, comme il dit, hein, eh bien, je le fabrique avec de l'eau, parce que voilà, il y a une telle sécheresse maintenant, donc je pompe sur la nappe phréatique de la plaine d'Alsace, qui est assez bien fourni encore, hein, mais voilà, ça va durer combien de temps? Et il dit, ça va pas durer, quoi. Et Jean Codemensch, il a cette capacité de se dire, finalement, je vais essayer, je suis patient d'abord, et petit à petit, on va accompagner les gens vers cette transition, vers cette notion de transition, donc il va chercher des gens très différents. Il va chercher une gamine de 20 ans, je dis gamine, pardon, oui, Sophie, si tu m'écoutes, toute jeune, et qui finalement n'y connaît rien, et puis qui va s'emparer de cette notion. Et puis, c'est quelqu'un qui sait avaler son ego pour faire avancer des projets d'intérêt collectif. Donc c'est assez exceptionnel. Une fois qu'on a dit ça, il y a une dynamique qui se met, moi que j'avais jamais vu à l'œuvre, hein, donc oui, nulle part. C'est-à-dire qu'on voit comment beaucoup de bénévoles dans cette commune, beaucoup de débats, on se réunit, ils pratiquent la démocratie participative avec 5 commissions, hein. Ça débat sur l'énergie, ça débat sur l'habitat, l'école a été rebaptisée école de la transition, ça dépasse sur l'éco-hameau, parce qu'ils ont fait un éco-hameau, sur les nouvelles constructions, la monnaie locale, le radis, enfin, les chevaux.
Qui... Oui, la monnaie locale s'appelle le radis.
Le radis, oui, voilà, tout à fait.
Il y a les chevaux aussi qui sont là.
Ouais, magnifique, qui font le maraîchage et le transport, oui, scolaire. Alors,
maraîchage, c'est eux qui, il y a un charrues derrière, hein.
Oui, tout à fait. Ils ont réadapté, en fait, on voit dans le film une différente charrue, etc., ou alors semeuse de pommes de terre qui était excellente machine, transformée pour pouvoir être mise derrière des tracteurs et retransformée pour pouvoir être mise derrière des chevaux. D'ailleurs, la régie agricole municipale, il y a que 3 communes en France, hein, qui ont une régie agricole municipale. Toulouse, Mont-Sartoux, qui est un autre exemple, et donc Ungersheim, elle est dirigée par un ancien vétérinaire, ancien entre guillemets, il a 30 ans, hein, qui a tout plaqué, comme on voit beaucoup de jeunes en ce moment qui font partout dans le monde, hein, ce qu'on appelle aux États-Unis les career shifters, ceux qui changent de métier, qui ont des bac plus, etc., des grosses carrières et qui laissent tout tomber pour faire de l'agriculture urbaine, pour faire de la permaculture, voilà. Et ça, c'est tout. Alors moi, j'ai passé un an et je dois dire que c'était assez... ça fait du bien, vous voyez, oui, c'est-à-dire, Denis, que c'est possible, quoi. Et c'est possible, et qu'il faut absolument ne pas lâcher les élus locaux. Voilà. Parce qu'ils peuvent entendre.
C'est un hommage aux élus locaux,
voilà,
votre film.
Oui, je dis aussi souvent que c'est un hommage aux élus locaux. Ah, oui. Alors j'ajoute éclairé et courageux. Alors ça fait rire les salles en général, parce que évidemment, j'ajoute, parfois les élus ne sont pas éclairés, ou ils sont courageux, ils ne sont pas éclairés, ou il y en a... oui. Mais quand ils sont les deux, c'est extraordinaire, comme on voit dans ce film. Et alors des charges, tout de même, pour que nous ayons des élus locaux éclairés et courageux, nous avons besoin de citoyens éclairés. Courageux.
Et oui.
Bah oui.
Et quand ils sont éclairés aux énergies renouvelables, c'est pas mal non plus. On les retrouve donc dans ce département du Haut-Rhin.
Au fur et à mesure des différentes réunions qu'on a fait, il y a une réflexion qui s'est faite, voir comment, par le biais d'une régie de l'électricité, la commune d'Ungersheim en fait puisse gérer tout ce qui est de l'énergie verte ou renouvelable, comment gérer ces installations. Et l'idée en fait, c'est de se regrouper pour pouvoir en fait s'entraider.
Ce serait aller vers un nouveau service public. Et quand on a vu les résultats qu'on peut obtenir avec une régie de l'eau, on a baissé à 2 reprises le prix de l'eau et on continue à investir considérablement, eh bien, vous voyez quel est le bienfait qu'on peut obtenir en travaillant de la sorte et dans cette direction. Et maintenant, on va arriver aussi dans la nourriture avec ce projet de permaculture où un chargé de mission a été embauché par la commune pour créer une régie municipale agricole.
Mon rêve, que ce soit à Ungersheim ou dans la plupart des endroits habités de France et de Navarre, c'est que les gens comprennent que c'est parce qu'ils sont entourés de nature qu'ils peuvent manger et qu'ils peuvent vivre. Et donc mon rêve, c'est que les gens se reconnectent avec le caractère vivrier de la nature qui les entoure.
Et là aussi, des hommes et des femmes en écologie, hein, oui, on les voit. Alors ça fait pas quand même rêver tout le monde, hein, faut quand même être très clair, il y a 2200 habitants donc, à Ungersheim, mais c'est vrai qu'il y a encore des réticents, quoi.
Ben, en fait, c'est pas des réticents, parce que moi j'ai quand même passé un an là-bas, c'est ce qu'on appelle les indifférents. Vous voyez, oui. Donc, alors, on estime qu'à peu près, alors Jean-Claude Mensch parle de 50, un noyau dur de 50 personnes qui suit vraiment le programme de transition. Mais un noyau dur, c'est sérieux, hein. C'est-à-dire, c'est comme moi, j'ai assisté au mois de juillet, coup de téléphone, on prenait le café chez le maire et sa femme, coup de téléphone de l'agriculteur qui a fait les bottes de paille pour la maison des natures et des cultures. Il dit, il y a un risque de pluie, il faut 20 personnes dans une heure, et il y avait 20 personnes dans une heure. En fait, il y a à peu près 200 adultes qui sont très engagés, hommes ou femmes. Je parle même pas des enfants, l'école de la transition, etc. Des adultes. Donc, c'est à peu près 20% de la population dans une commune de 1200 habitants où il y a au moins la moitié d'enfants, ce qui est énorme, hein, en fait. Et puis, il y a les autres qui sont là, comme dit Bertrand dans le film. Ben voilà, au début, ben, on participe pas parce qu'on est pris par la vie, on travaille à Mulhouse, etc. Donc l'idée, c'est de voir, puis c'est ce qui se passe en fait, comment petit à petit, eh bien, les indifférents participent. Et d'ailleurs, quand on a fait l'avant-première à Ungersheim, c'était très amusant, le 19 novembre, il y avait 600 personnes, et on entendait en sortant des gens qui disaient, t'as vu comme ce qu'on fait à Ungersheim, c'est super. Donc ça veut dire, ben voilà, mais c'est pas des opposants.
Et alors
c'est
au niveau alimentaire, donc comment ça se passe? Donc,
alors au niveau
ils sont
alimentaire,
bio, bien sûr, mais
oui, alors ils ont plein d'initiatives. Hein, donc oui. Une ferme urbaine de 8 hectares, oui. Dont la gestion a été confiée à un jardin de cocagne, qui fait donc de la réinsertion par le maraîchage bio. Ils ont donc une régie agricole municipale, donc on vient d'en parler. Ils ont une cantine 100% bio qui fournit 550 repas à 5 cantines autour. Hein. Et donc, tout est orienté vers comment renouer l'autonomie, avec l'autonomie alimentaire, ce qui, comme vous savez, aujourd'hui, nous estimons que les villes et villages de France ont 3 jours d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que si on n'a pas de pétrole, on ne peut pas se nourrir. Hein. Sans parler du fait que, d'après la communauté européenne, un aliment acheté dans un supermarché voyage en moyenne 2700 km entre son lieu de production et son lieu de consommation.
Une calorie alimentaire.
Voilà, une info 7 d'énergie fossile. Ouais. Donc, tout ça, ça veut dire qu'en fait, si on ne mange pas bio et local, on contribue au réchauffement climatique. Et moi, j'aimerais bien qu'un ministre, un jour, le dise clairement comme ça aux Français, quoi. Voilà. Oui. Et donc, eux, leur idée, c'est, bien sûr, de renouer avec l'autonomie alimentaire, donc développer la production agricole sur place. Et la bonne nouvelle, c'est que ça crée de l'emploi, et de l'emploi pérenne.
Bilan depuis 2005, création de 100 emplois, oui. Diminution des gaz à effet de serre de 600 tonnes par an, économie de 120 000 euros en frais de fonctionnement, oui. Et pas d'augmentation des impôts locaux.
Oui, tout à fait.
Ça
parle, bien sûr. D'ailleurs, le résultat, j'étais avec Jean-Claude Mensch il y a 3 jours pour le présenter au Parlement européen, ce documentaire, et il a confirmé. Donc il avait tellement de demandes de visites pour venir voir comment ils ont fait dans les différents chantiers qu'ils ont dû embaucher quelqu'un à temps plein pour faire face à toutes ces visites. Et donc c'est formidable.
Qu'est-ce qu'on attend? Et puis de Pascal Derme, sœur en écologie aux éditions de la Mer Salée. Frédéric, vous serez là à la rentrée aussi.
Hein. Oui, évidemment.
Merci à Stéphane Beaujat, Alice Berger, à Camille Blanès et Lisa Mchin. Xavier Pestudia qui a réalisé l'émission. Muriel Pérez, Anne Gouzon qui nourrit les sites. Et puis la semaine prochaine, ce sera une petite dernière, donc pour avant l'été. On sera en été, on fêtera d'ailleurs aussi l'été, peut-être avec Jean-Marie Pell d'ailleurs, parce que j'ai retrouvé un son que je n'avais jamais diffusé. Et nous irons aussi du côté des Monédières avec un homme qui s'appelle Jean Maison, un gars assez formidable qui a aussi pas mal réfléchi à l'environnement. C'est un homme qui est spécialiste des plantes.
CO2 Mon Amour avec le WWF. Agissez maintenant pour préserver notre planète et réinventer le monde de demain. Plus d'infos sur les dons, legs et assurance vie sur www.fr.